Vous écoutez
RMC.
Alors, Irles donc à 3 officialisé, Clément à Monaco officialisé. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle de l'effet Périnel. Hein. On attend d'avoir Damien sur le départ de Kovac, là, parce qu'il a peut-être quand même eu un petit problème dans l'effet Périnel, en l'occurrence.
Bah, ce que je comprends pas, c'est surtout pourquoi c'est pas à lui qu'on a confié l'équipe.
Ah, va-t-il faire partie du staff de Philippe Clément?
Il se peut que
peut-être.
Il ait un rôle plus important.
En tout cas, il est toujours au club.
Il est toujours au club, oui, parce que c'était
parce que c'est un homme de confiance,
parce que proche des joueurs, parce que voilà. Proche du directeur
de qualité,
parce que proche des joueurs et parce que d'abord il travaillait bien, c'est vrai, et il était apprécié en plus surtout de comment il s'appelle,
le directeur sportif Mitchell.
Oui. Paul Mitchell.
Et il est voilà. C'est Paul Mitchell qui a fait venir Damien au club.
Exactement, parce qu'ils se connaissaient de l'époque Red Bull. C'était un homme de Red Bull, Paul Mitchell, et Damien aussi. Donc il reste au club.
Alors je vais résumer la situation pour ceux qui ont raté une étape. À Monaco, on reproche à Kovac de ne pas avoir fait progresser les joueurs. On pourra y revenir sur ce débat, parce que c'est peut-être pas forcément net, mais enfin bon. Et à 3, Batles, lui, se reconnaissait plus dans le mode de fonctionnement. En gros, il voit débarquer des mecs à l'entraînement qu'il a jamais vu, parce que, le City Group, faut faire passer les joueurs d'un truc à l'autre, il faut que les mecs jouent, etc. Donc,
je te rappelle que ça, on l'avait dit un soir, on avait décrit le fonctionnement du City Group. Je sais plus qui était intervenu. Alors, ça, c'est vrai. Et je sais plus qui était intervenu en disant que ça serait pas comme ça que ça peut se passer, qu'on n'imposerait jamais ça à un entraîneur. Je sais plus qui avait dit ça. Je me demande si c'était pas Jérôme à l'époque avec nous, qui doutait un peu que ça fonctionnait comme ça. Je lui avais dit, tu verras que ça va être carré, qu'on va demander ça, et que si l'entraîneur ne rentre pas dans les clous, il dégage. Voilà. C'est des fonctionnements qui sont nouveaux, ça aussi.
Ben, c'est ça, ça voilà. Aussi. Donc au final, on peut se poser la question claire de se demander si finalement Kovac et Batles n'ont pas été victimes du système trading qui fait qu'aujourd'hui, en gros, et à Monaco, on se cache pas, hein, c'est en gros, il faut faire progresser les mecs pour les vendre et prendre le pognon. Voilà.
Ben, en l'occurrence, à Monaco, c'est un des éléments du dossier. Ça n'est pas le seul élément. Oui, il y avait ça, notamment les joueurs, que ce soit Tchouaméni, Diop ou Fofana, où on disait que, ils étaient moins bons que l'année dernière, mais en même temps, tu peux très bien rétorquer qu'on est qu'à mi-saison, qu'ils étaient en train d'entrer dans une dynamique qui était bien plus positive, que la première partie de saison avait été compliquée, et qu'ils pouvaient très bien remonter au classement dans la deuxième partie de saison. Donc je ne suis pas sûr que la non-valorisation des jeunes, même si c'est un des arguments qui a été avancé, tu as raison, Gilbert, mais il n'y a pas que ça, il y a eu aussi...
D'ailleurs, moi, cet argument, excusez-moi, on peut en débattre deux minutes. Je sais pas, Diop par exemple,
c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple.
Tchouaméni, il est bon, il a progressé.
Oui, quand tu achètes Boidou 14,
Caio Henrique, il est bon, il a progressé.
Tu vois, par exemple, tu prends le cas de Boidou, Gilbert.
Ouais, voilà.
Boidou, c'est typiquement le cas regretté par la direction parce qu'il achète 14 millions. Il n'est pas très bon quand il joue. Kovac le voit, il ne le fait pas jouer. Mais il est obligé de le faire jouer. Donc il doit dire à Ben Yedder.
L'idéal aurait été qu'il le fasse jouer de temps en temps et qu'il soit bon quand
exactement.
Il joue.
Exactement. Sauf que la direction lui met la pression.
Ouais, excusez-moi, mais virer Kovac pour. Enfin, si c'est ça les arguments.
Vous oubliez une dimension qui est également présente dans ce nouveau football, c'est la lassitude de plus en plus rapide des joueurs envers un coach. Surtout quand ces coachs ont des discours très exigeants.
Ouais. Oui, parce que Kovac, c'est un peu à l'ancienne, un mode un peu militaire.
Attention, il n'y a pas que ça. Tu vas voir que Tuchel, ça va vite être un problème à Chelsea, alors qu'il est champion d'Europe il y a à peine 6 mois. Le discours des coachs est de plus en plus lassant pour les joueurs, parce que les joueurs sont de plus en plus capricieux, parce qu'ils gèrent des carrières individuelles, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de management à gérer dans les clubs. Tu vas voir que des mecs comme Conte vont rester de moins en moins dans les clubs, voire disparaître de plus en plus vite et quitter la scène du football. Tu vas avoir des entraîneurs, je ne sais même pas comment va être la nouvelle génération. Aujourd'hui, à mes yeux, il ne reste plus que 2, et je ne sais pas combien de temps ça durera pour eux, Klopp, Guardiola. On pourrait ajouter Ancelotti, qui a fait une sorte de comeback au Real, mais quand... parce que là, il tient avec la vieille génération, avec le milieu à 3 qui est déjà d'une autre génération, avec Benzema qui est le taulier de l'équipe et tout. Enfin, c'est une équipe qui est un peu vieille, mais avec la nouvelle génération de joueurs, Ancelotti va disparaître. Il restera que les deux autres. Je sais pas combien de temps ça durera pour Klopp et Guardiola.
Ils sont aussi très exigeants, Daniel.
Regarde à Leipzig, comment l'autre a sauté très vite. C'est pas la même force d'exigence. En fait, ils vont être exigeants sur un 6 mois, 1 an. Et puis après, il faudra changer de discours. Il faudra une nouvelle, enfin, l'exigence sera toujours présente, tout ça, mais il faudra qu'elle soit incarnée par un autre discours, par un autre mec qui va arriver. Ils vont lasser de plus en plus vite. Les joueurs vont être lassés de plus en plus vite. Ils disent, ah, c'est bon, lui, il nous a saoulés, il répète tout le temps la même chose. Allez, hop, on zappe. Hop, on passe à autre chose. La durée de vie, je pense, elle va se raccourcir avant. On parlait des 3 ans. Mais les 3 ans, à mon avis, il y a plus grand monde qui les fera dans les clubs.
Je trouve un peu paradoxal dans ces décisions-là. Et dans, en tout cas, si on considère que c'est celle la véritable décision, hein, on va faire le pari de la bonne foi. C'est que, en réalité, le statut de l'entraîneur disparaît complètement, alors que dans la politique de trading, précisément, celui qui crée la valeur, c'est précisément l'entraîneur, parce que c'est lui qui va être capable de révéler un joueur en 2-3 mois. On a une espèce de prolétarisation de l'entraîneur, c'est-à-dire que tout à coup, il se retrouve être l'objet d'une pièce dans une machine dans laquelle on le met quand on en a besoin, on le jette quand on en a plus besoin, un peu comme ces chefs d'entreprise, vous savez, que tu nommes dans les boîtes, dans les repreneurs, que tu mets 6 mois, tu sais, que les fonds de pension mettent 6 mois, 1 an, etc. Ils mettent des méthodes et après tu les dégages. Alors ça, si c'était à la limite ces méthodes-là, on les comprendrait. Le problème, c'est que dans le football, la particularité du football, c'est que la valeur, bon, qui est une valeur purement spéculative, qui est la valeur du marché, elle est créée. Les seuls qui sont capables de la créer, ce sont les entraîneurs. Et donc, j'ai du mal à comprendre dans ces décisions-là, c'est comment est-ce qu'on veut espérer d'un côté faire du trading, c'est-à-dire créer de la valeur sur peu de temps avec des joueurs, en les valorisant, en les faisant progresser, et de l'autre côté, dès qu'il y a un joueur qui se plaint ou dès que t'as un petit problème de management avec des entraîneurs qui ont tendance à prendre un peu la confiance ou être un peu trop autoritaire, tu t'en débarrasses au risque de mettre tout l'édifice un peu par terre, juste parce que tu vas enlever l'élément qui va être celui qui va être créateur de valeur. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans ces décisions-là, et qui me semble extrêmement risqué dans le cas de City, où éventuellement tu peux dire que t'as tellement de process qui sont mis en œuvre, parce que City, vous avez expliqué, t'as des banques de données d'entraînement, en réalité demain tu peux être n'importe qui peut être entraîneur de City, à la limite tu prends des exercices prends un acteur et tu lui dis de faire ce que font les exercices, donc c'est standardisé au point que maintenant t'as même plus besoin d'entraîneur quasiment pour faire les entraînements. Donc peut-être dans ce schéma-là éventuellement ça pourrait avoir un sens, même si je pense que humainement ça tient pas debout. Mais éventuellement dans ce cas-là, dans le cas de Monaco, j'ai plus de mal à comprendre.
On va accueillir Daniel. Attends. Est-ce qu'on va accueillir Mohamed, qui est supporter de Monaco, pour avoir l'avis des suiveurs, des supporters. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir l'équipe. Bonsoir Daniel.
Salut Mohamed.
Bonne année à vous.
Bonne année. Toi aussi, Mohamed. Bon, alors, tu t'en penses quoi de ce changement de coach là? Tu penses qu'il a été victime du système trading de Monaco, Kovac?
Déjà, j'ai envie de dire une chose, c'est que l'AS Monaco n'a pas été clément avec Kovac. Je sais pas si vous voyez.
Pas mal, bien joué, mon vieux.
Ouais, excusez-moi, je sais que c'est... Mais non, et en plus, je sais pas si vous avez vu le communiqué de presse qui a été fait pour dire au revoir à Kovac. Je trouve que, déjà, au nom des supporters, entre guillemets, je pense qu'on peut remercier Kovac pour ce qu'il a fait. Et la sortie du club qui a juste fait 2 lignes, bonjour, le sous-signé Petrov licencie Kovac, allez à l'année prochaine, salam alaikum. Je trouve quand même que c'était vraiment dégueulasse. On va quand même être un peu honnête. Certes, il n'a pas été, c'est pas Guardiola, ça n'a pas été Zidane, mais il nous a mené l'an dernier à une 3e place, à une finale de Coupe de France. Il y a eu des défauts, hein. Moi, j'étais assez remonté contre lui durant le début de saison. Il a eu des choix qui ont été très bizarres. Mais de là, ne même pas faire un petit communiqué, on va dire, un peu digne et classe, comme peut être un club comme l'ASM, trouvait ça un peu dommage. Et concernant, en fait, quand tu disais le côté trading, je sais pas si c'est le côté trading, mais je pense que ce que disait Daniel était aussi juste sur le côté lassitude. Je sais pas si vous avez vu des fois avec Fofana, quand il sortait Fofana sortait énervé.
Fofana, pardon, il était pas bon aussi. Je veux dire, tu peux pas défendre.
Mais aujourd'hui, c'est plus à l'entraîneur qui est la valeur essentielle. C'est le paradoxe que décrivait tout à l'heure Thibaut, alors que c'est l'entraîneur qui est censé valoriser le joueur. Ouais. Si le directeur sportif, il voit que la jeune pépite sur qui on imagine faire une culbute de je sais pas combien de millions est pas content, si ton capitaine, en l'occurrence Ben Yedder, est pas vraiment content, si en plus, il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Si le jeu qu'on avait promis un peu attractif ne l'est plus vraiment, maman. Il n'y a plus d'affect. Hein, Paul Mitchell, et c'est pour ça, Thibaut, je voulais t'interpréter tout à l'heure pour que tu expliques aussi. C'est qui prend les décisions aujourd'hui. Un mec comme Paul Mitchell, c'est ok. Bon, on va dire, il connaît le foot. Il pourrait bosser dans un autre sport. C'est un mec qui est à Monaco, qui était aux États-Unis avant, qui pourrait être en Allemagne demain. Ça, c'est des patrons un peu interchangeables qui ont certainement beaucoup de compétences en management, mais il y a plus du tout d'affect de mec qui va être attaché à un club, qui va dire toi tu vas rester quelques années, tu
vas comme les multinationales
une sorte de mentalité club et tout. Non, Mitchell, aucun affect, tu vois. Je suis sûr que en plus ça s'est très bien passé. Bon, écoute Nico, ouais, t'as bien bossé l'année dernière et tout. Bon bah le chèque tu passes à la compta. Bon, en plus tu vois, on va pas s'apitoyer sur leur sort, c'est des mecs qui partent avec des grosses sommes d'argent. Nico Kovac s'y retrouvera un club, il sera encore dans le milieu du foot. Voilà, tiens, toi il y a plus d'affect, tout est triste pour un mec. Le gars il lui dit bon écoute, poignée de main.
D'ailleurs Kovac il a été très
bien sûr. Kovac ça a été très digne,
il peut revenir dans deux mois, c'est
à dire ouais, c'est vrai, à Monaco c'est tout.
Il a été dire au revoir aux joueurs, il s'est barré, tu vois, personne pleure, il y a pas de, toi on est totalement hors affect, quoi. L'affect c'était quelque chose d'important dans le foot il y a encore quelques années, même parfois on surjouait certains un peu trop l'affect. On est en train de sortir de tout ça. T'as bossé, t'as fait ta mission, un an, deux ans, un an et demi, 6 mois. Au revoir, tu te casses. T'as apporté ce que t'as apporté. Va bosser dans un autre club. Paul Mitchell, il est là. Demain, il pourra diriger, je sais pas quel club ailleurs. Voilà quoi. Oui, quelle est la tâche de Paul Mitchell à Monaco
aussi, et lui aussi, il a sa part de responsabilité.
On n'est plus dans Docteur Campora.
C'est l'analogie un peu du CAC 40, quoi. Tu sais, les patrons qui changent d'entreprise.
C'est ça.
Ils sortent de l'ENA, puis après, qui vont à la Générale des Eaux, puis après, ils changent.
À la SNCF, il y a pas d'ailleurs 2 ans, 3 ans. Mine, machin. Ouais, bien sûr, c'est ça.
Et Mitchell aussi a sa part de responsabilité, messieurs. Il ne faut pas. On parle de Kovac.
C'est Mitchell qui a décidé, c'est lui qui change le sportif.
Et surtout aussi, Daniel, c'est lui qui va chercher les joueurs qui sont censés progresser. Mais quand tu vas chercher Nubel, s'il ne progresse pas, c'est un peu aussi de sa faute. Quand tu vas chercher Pavlovic,
Nubel, ça semblait plus être Kovac que Mitchell.
En même temps, c'est pas des robots.
Boadou, Pavlovic, c'est ouais, Matsima, Matadzo.
Il lui dit moi je t'ai donné la matière.
Tu les as pas fait progresser,
c'est de ta faute.
Exactement. Il y a beaucoup de déchets dans le
d'autant Daniel que le joueur le sait qu'il est éventuellement fera objet de trading, donc du coup il voit que l'entraîneur le fait pas jouer, donc il prend pas de valeur, donc c'est la faute de l'entraîneur.
Bien sûr.
Mohamed, un truc à rajouter?
Oui, en fait, comme vous le disiez, pour moi, en fait, techniquement, c'est si quelqu'un aurait dû sauter, si un fusible aurait dû sauter, ça aurait été plus Paul Mitchell, parce que en vrai, Kovac, certes, il a pas fait progresser Boadou, mais si Boadou il est pas capable de faire 2 passes en avant, c'est pas de la faute de Kovac. Si Jean Roucas est nul, il était nul à Brest. Pourtant, c'est Mitchell qui l'a pris. Pareil pour Nubel, pareil pour Jacob. Et je pense que Mitchell aussi a sa part de responsabilité. Beaucoup pensaient que si Kovac partait, Mitchell serait avec lui dans la charrette. Et pourtant, Mitchell est
toujours là. Pour l'instant, c'est le patron. Il sautera dans un deuxième temps.
Exactement.
Il sautera dans un deuxième temps.
C'est toi qui avais rebaptisé Jean Roucas.
Exactement, oui, j'étais la dernière fois, effectivement. Mais
je trouve que tu as raison, ça lui va plutôt pas mal.
C'est ce que j'avais dit.
Un peu disparu, Jean Roucas, d'ailleurs.
Un humour de même qualité que celui de Jean Roucas.
Je vous remercie.
Et Daniel, son ralliement au FN, rappelez-vous, à l'époque.
Et Daniel a raison, attention à la situation de Paul Mitchell à la fin de la saison.
Jean Roucas, il a fini au FN.
Bien sûr.
Bah oui. Pas,
et... J'ai complètement oublié ça. Si.
Je vais éviter d'avoir cette fin-là, quand même.
Je dis, excellent Max du Standard qui nous dit que Jean Roucas aurait pu jouer à Vannes.
C'est vrai.
Il aurait pu être son directeur sportif. Voilà.
Ok, c'est vrai.
Ouais, oui.
Bien joué, Max.
Merci, bien joué, Max. D'ailleurs, Vannes, qui était la ville où est né et où a disparu Jean-Yves Lafesse. C'est quand même génial pour un mec comme Jean-Yves Lafesse.
C'est vrai,
je vais
mourir à Vannes.
Mourir à Vannes quand t'es un mec qui en a fait toute sa vie, ouais, c'est vrai.
Ou comme vous savez, dans un autre style, mais Camus, le philosophe de l'absurde, qui meurt sur la route de Sens. Voilà, il est mort d'un accident de la route sur la route de Sens.
Ouais, c'est vrai que c'est un accident de la route, mais je savais pas que c'était sur la route de Sens.
La route de Sens.
T'es sûr que c'était pas celle d'Auxerre?
Non, c'était Sens pour aller un peu vers Paris, quoi, il remontait de Lourmarin.
Mohamed, merci!
Merci à vous.
Salut Mohamed.
Salut, bonne soirée. Tiens, on va l'accueillir dans quelques instants. Ludwig, qui lui habite en Belgique et qui veut nous donner son avis sur Philippe Clément. C'est intéressant parce que on va découvrir aussi ce coach.
Ludwig.
Voilà, qui a plutôt eu des résultats corrects avec, même très corrects avec Bruges, parce que c'est le premier club de Belgique et de loin aujourd'hui Bruges. On se retrouve dans quelques instants dans l'after et puis il y aura tout le reste de l'actu du jour, notamment les infos lilloises avant le match de demain face à Lens. À tout de suite.